autour de la question. Caroline Nachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver en musique aujourd'hui, chers amis auditeurs, à l'écoute de la trompette de Christian Scott, juste pour le plaisir des oreilles, mais pas seulement, en nous demandant aussi pourquoi ça fait tant de bien, par où ça passe. Qu'est-ce qui se joue dans notre cœur, dans tout notre corps, à l'intérieur même de notre cerveau, quand on écoute ou quand on joue d'un instrument? Pourquoi la musique provoque tant d'émotions et a un tel impact sur nous? Est-il possible de comprendre, d'analyser le plaisir qu'elle nous procure à tous les âges et à tous les moments de la vie? Défi relevé par notre invité, le professeur de neurologie et organiste Bernard Le Chevalier, qui vient de publier « Le plaisir de la musique », une approche neuropsychologique, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Nous sommes également en compagnie du musicologue et chanteur lyrique Tom Mebarki, lauréat français de Ma thèse en 180 secondes, autour de la question « Pourquoi la musique enchante nos neurones ?» Bienvenue pour nous laisser transporter. Bonjour Bernard Le Chevalier.
Bonjour.
Bonjour Tom Mebarki.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous interroger sur le plaisir de la musique. C'est le titre de votre nouvel essai.
Mais oui.
Bernard Le Chevalier, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, une approche neuropsychologique de la musique à laquelle vous avez déjà consacré deux ouvrages,
oui.
Le cerveau de Mozart et le cerveau mélomane de Baudelaire. Car le neurologue que vous êtes, professeur émérite de neurologie à l'université de Caen, membre de l'Académie de médecine, fondateur du centre de recherche Cicéron, est aussi organiste, musicien classique et mélomane passionné. Ce sont ces deux casquettes de chercheur et de musicien qui expliquent, Bernard Le Chevalier, que vous vous intéressiez aux effets de la musique et jusqu'à tenter d'analyser ce plaisir qu'elle nous procure.
Exactement, vous venez de dire exactement la vérité. J'ai mené une carrière essentiellement de neurologue. J'ai été interne des hôpitaux de Paris. Étant interne des hôpitaux de Paris, j'étais interne du professeur Alain Joannine, qui avait examiné et soigné Maurice Ravel. C'était déjà ça.
Maurice Ravel, dont on reparlera au cours de cette
émission. Dont on parlera. Et puis, j'ai été au conservatoire de région de ma région, où j'ai fait tout mon cursus en piano, en orgue, en harmonie, et un peu en composition, mais en même temps, j'ai mené des études médicales, et à Paris notamment. Et là, quand j'ai été chef de service, j'ai eu par hasard, à soigner des patients qui avaient perdu le sens de la musique, c'est-à-dire soit des musiciens professionnels, quelques-uns, soit des amateurs qui aimaient bien la musique, et pour qui, d'un seul coup, à l'occasion d'un traumatisme ou surtout d'une infection cérébrale, avaient perdu le plaisir de la musique.
Totalement. Ça s'appelle A-A-A.
C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas distinguer ce qui était musique et ce qui n'était pas musique. Par exemple, une femme qui avait 26 ans, une jeune femme qui venait d'avoir un bébé, ne savait pas si elle entendait de la musique ou si elle entendait une moto dehors ou si elle entendait son bébé qui criait. Elle ne pouvait pas distinguer ce qui était de la musique. Les sons, lui, étaient devenus, si vous voulez, sans signification. Elle ne pouvait pas savoir ce que c'était. Elle avait un accident vasculaire cérébral de l'hémisphère droit.
Et c'est ce qui a fait du coup que vous vous êtes intéressé comme une sorte d'aller-retour,
voilà,
entre les effets de la musique sur le cerveau et puis les pathologies qui du coup peuvent rendre insensible à la musique.
J'ai commencé par la pathologie parce qu'il y avait d'autres chefs de service à Caen qui étaient aussi amateurs de musique et qui m'avaient adressé des patients. Alors ce qui se passe, c'est qu'on nous a demandé de faire un rapport sur ce phénomène et j'avais réuni 13 malades qui avaient perte du plaisir musical, si bien que ça fait un rapport publié il y a longtemps, en 1985, mais quand on publie un rapport comme ça, c'est connu, si bien qu'on nous a envoyé de France d'autres patients, on en a reçu de Brest, on en a reçu de Besançon, un chanteur et un chef de chœur de Besançon qui avait perdu le sens de la musique et qui pensait que tous les choristes chantaient faux du fait d'une lésion cérébrale. Si bien que ça a fait, comme on dit, boule de neige, et puis après on a fait un club de neuro-audio-acoustique qui est devenu de langue française avec le Canada, la Belgique, l'Italie, où c'est réuni, et ça a pris des proportions très intéressantes. Et surtout, j'ai créé à l'université, j'ai eu comme élève Hervé Platel, qui a repris le flambeau, ce qui me fait très plaisir.
Et que nous entendrons aussi au cours de cette émission,
voilà,
parce que lui travaille notamment,
voilà,
avec des malades d'Alzheimer.
Voilà.
On y reviendra. Tom Mebarki, alors vous, en tant que musicologue, vous vous intéressez aussi au plaisir de la musique, mais surtout à ses effets, finalement plus aux effets de la musique, aux émotions que ça peut procurer. Vous êtes chanteur lyrique au départ et vous avez décidé d'approfondir le sens de la musique et surtout son histoire en vous lançant dans une thèse qui vous a d'ailleurs valu de remporter le La finale française de ma thèse en 180 secondes, une thèse sur les liens entre les musiques populaires d'hier, l'opéra de Rossini, et celle d'aujourd'hui, dans laquelle vous n'hésitez pas à comparer Puccini à Lady Gaga ou Shakira, on y viendra. Mais ce qui vous intéresse, Tom Merbaki, c'est de comprendre sur quoi joue finalement la musique, qu'elle soit populaire ou pas, à travers l'histoire, pourquoi et comment le plaisir est au rendez-vous. C'est un peu ça ?
Alors, c'était, je travaille sur Rossini, hein, sur les liens entre Rossini et la musique populaire d'aujourd'hui. Et effectivement, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que de manière transhistorique, c'est-à-dire en abandonnant l'idée de qu'il y a un passé ou qu'il y a un futur ou un présent, que effectivement la musique du passé, en tout cas celle de Rossini, donnait les mêmes effets, avait le même potentiel finalement sonore que la musique populaire d'aujourd'hui. En fait, la musique de Rossini est conçue de la même manière que les musiques qu'on peut entendre aujourd'hui, comme celle de Shakira, de Lady Gaga, puisqu'elle a été pensée pour être diffusée pour que la majorité finalement du public qui l'écoute soit sensible à cette musique-là.
Mais ça, c'est le musicologue que vous êtes qui le dit, qui l'étudie, qui le travaille. Est-ce que les compositeurs eux-mêmes, est-ce que Rossini autrefois ou Lady Gaga aujourd'hui se rendent compte de ça, qu'ils font appel à quoi d'ailleurs pour
oui,
que
alors
ça
on,
séduise comme ça.
On reprochait déjà beaucoup à Rossini en son temps de faire de la musique facile, de la musique voilà où c'était pas vraiment ça demandait pas un gros travail scientifique. Hein, c'était de la musique qui était vraiment faite pour plaire. Et lui, il le revendiquait. Il disait voilà, moi ma musique, c'est de la musique légère. C'est de la musique qui est là pour plaire à un plus grand nombre de personnes. Je travaille pour ça et voilà, mon but, c'est d'être le plus connu, hein, finalement. Voilà. Donc c'est vraiment ce phénomène. En fait, pour moi, Rossini, c'est un des premiers compositeurs de musique mondialisée. Une musique qui veut être vraiment diffusée.
Qui veut faire des tubes. Quoi,
voilà, c'est ça. De Paris à Calcutta, comme le dit Stendhal.
Autour de cette question du plaisir, partagé ou pas, de la musique, du plaisir qui n'est pas si simple que ça, hein, que nous procure la musique à tous les âges, à tous les moments et à tous les stades de la vie, je propose d'écouter l'éclairage d'un autre chercheur et musicien que vous connaissez bien également, Bernard Le Chevalier, Emmanuel Bigand.
Très bien, c'est un ami à moi.
Auteur du Cerveau mélomane.
Pour avoir travaillé avec des patients dans différents types de pathologies et dans des situations de détresse intense, j'étais assez impressionné de voir les réactions que la musique pouvait avoir sur eux. Et donc, j'ai étendu un peu les observations. Je suis allé voir chez les tout jeunes enfants l'effet que la musique pouvait avoir sur eux. Et c'est tout à fait surprenant. On est allé voir dans les services de néonatalité aussi, chez
des grands prématurés.
Et ce qu'on a vu était totalement surprenant.
Déjà sensible à la musique, déjà réactif et...
Déjà réactif, oui, d'une certaine façon, ça sachant que le grand prématuré est dans une situation de détresse physiologique très, très importante et c'est très, extrêmement éprouvant et de voir qu'il peut réagir à des chants très doux qui lui sont chantés en direct dans la couveuse et qui peut réagir par des réflexes de succion, c'est extrêmement impressionnant d'imaginer et de comprendre pourquoi la musique a un tel impact tout au long de la vie. Donc ça, ce sont des questions disons humaines et puis scientifiques qui sont évidemment extrêmement importantes à comprendre. On pense parfois que c'est le son qui a un pouvoir sur le cerveau. J'ai envie de dire maintenant ce qu'on comprend, c'est pas que c'est pas tellement le son en soi, mais c'est l'humain qu'il y a derrière le son. C'est-à-dire, c'est la musique en tant qu'objet de communication. Et c'est parce qu'il y a des enjeux de communication qui sont fondamentaux pour l'espèce humaine que la musique a ce pouvoir-là. Mais notre cerveau a évolué pour pouvoir interagir intelligemment avec les congénères, nos semblables, et que tous les outils de communication sont donc des outils qui sont privilégiés par l'adaptation. Et la musique, c'est manifestement un outil qui présente beaucoup d'avantages pour cela. Et c'est pour ça qu'elle va avoir un effet tout au long de la vie.
Dorme, dorme, meu menino. Foi-se o sol, nasceu a lua. Qual será o teu destino? Que sorte será a tua?
Bernard Le Chevalier, comment expliquer le plaisir, ou bien plus que ça, le bien-être finalement que procure par exemple cette berceuse chantée par Alice Machado, ce plaisir, vous en avez même fait des communications à l'Académie de médecine dès le plus jeune âge et même avant, hein,
oui.
Déjà dans le ventre
oui,
maternel.
Tout à fait. Nous avons eu récemment une conférence de Madame Granier de Fer, qui est une personne qui a beaucoup travaillé la question, que je me permets de rappeler et que j'ai eu plaisir à rappeler parce que cette personne a fait un travail absolument admirable. Et Madame Granier de Fer nous a appris établi, je veux dire, que dès la 25e semaine de gestation, on enregistrait des potentiels de la cochlée. C'est-à-dire que le fœtus de 25e semaine de gestation entend déjà. Elle nous a montré des choses encore plus passionnantes, c'est qu'elle a réussi à nous montrer les réactions du fœtus selon qu'il entend de la musique, selon qu'il entend de langue allemande ou de langue anglaise.
Comment il ne réagit pas pareil.
Non, mais attendez, comment ? Eh bien, parce qu'elle a enregistré en même temps que les potentiels évoqués auditifs, les battements cardiaques. Elle a fait des électrocardiogrammes au fœtus. Elle a vu que plus le fœtus est content, plus il ralentit son cœur. Quand il entend de la musique, il ralentit tout à fait son cœur. Quand il entend une langue prononcée, un peu gutturale, le cœur s'accélère, la tachycardie arrive. Et ce qu'elle nous a montré en plus, c'est qu'il était capable de mémoriser. Car si on fait entendre à la maman qui porte ce fœtus tel morceau, et que quand le fœtus devient bébé, si on lui passe ce morceau au milieu d'autres morceaux...
Qu'il a entendu dans le ventre, il le reconnaît.
Voilà. Donc il y a déjà une mémoire de la musique chez le fœtus dès la 25e semaine de gestation.
C'est énorme. Comment se fait-il qu'on aime, alors là pour le coup, comme ça la musique? Est-ce qu'on est câblé pour, puisque vous êtes neurologue, est-ce qu'on est, nous les humains, on est câblés pour aimer la musique?
Je pense que oui. Je pense que c'est une fonction. Mais qu'elle n'est pas universelle. Et alors, les auteurs finlandais ou finnois, je ne sais pas, chez des bébés d'un jour, ont montré que des bébés d'un jour réagissaient différemment aux morceaux qu'on leur faisait entendre. Voilà. Alors, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, les émotions musicales. Pourquoi est-ce que la musique nous enchante ? Eh bien, le mot enchante, qu'est-ce que ça veut dire ? Enchante, ça veut dire de mettre dans le champ. Mm-hmm. Et la musique nous enchante parce qu'elle nous met dans un autre monde. Et cet autre monde, elle a son temps. Le temps musical. Avec la musique, nous entrons dans un autre temps.
C'est-à-dire que du coup, ce n'est pas le temps des horloges, mais le temps habituel. La musique nous transporte véritablement.
Voilà. Dans un temps qui n'est pas quand vous entendez un morceau de musique, vous ne dites pas c'est 4 secondes, c'est 5 secondes. Vous dites c'est un allegro, c'est un adagio, il y a des croches, il y a des tout ça. C'est un monde à part et on est comme dans un monde merveilleux qui défie le temps du calendrier, le temps de l'horloge et qui nous fait respirer. C'est ça que j'ai fait mon livre qui touche autant la musique populaire, autant le jazz, autant la musique.
Oui, peu importe la musique, absolument.
Toutes les musiques, parce que la musique, elle a une spécificité acoustique et émotionnelle et temporelle. Et un auteur qui a montré ça, qui s'en est servi dans son œuvre, c'est Olivier Messiaen, qui a utilisé des rythmes qui n'étaient pas des rythmes européens, ce qui nous donne une espèce de flottement affectif qui montre que la musique est bien un monde à elle, à lui.
Tom Mebarki, vous en pensez quoi ? Vous, justement, qui avez un autre rapport à la musique, vous avez été à la fois chanteur lyrique, aujourd'hui vous voulez en comprendre le sens, hein, vous cherchez à, vous êtes musicologue, et à remonter le temps aussi pour essayer de voir à quel point elle est parfois complètement intemporelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on est câblé pour aimer, hein, avec tous les guillemets qu'on peut mettre la musique ?
Alors c'est une très bonne question. J'aurais plusieurs pistes. Déjà, peut-être pour rebondir, hein, sur l'expérience justement qui a été faite entre la relation entre la musique et les enfants prénatales. Peut-être est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une question de vibrations physiques entre le son qui émet ces vibrations-là et qui permet de rentrer finalement en contact avec le corps du bébé dans le ventre de la mère. Est-ce que finalement il n'y aurait pas simplement c'est juste une question émotionnelle, mais aussi cette question physique qui pourrait aussi avoir un lien dans le battement, le ralentissement des cœurs?
Dans le rythme, dans la vibration.
Vous avez raison, parce que le bébé, ce qu'a montré aussi Madame Granier de Fer, c'est que le fœtus, il entend des quantités de choses, malgré la paroi de l'utérus et malgré
le fait qu'il soit dans l'eau.
Emmène, il entend des bruits, il entend les bruits de sa mère, les bruits de l'aorte, les bruits de la respiration.
Donc c'est autant les rythmes, les vibrations que les sons. Enfin,
Il est entouré de sons, dont il a une certaine conscience et dont il est capable de faire une certaine mémoire. Je crois que c'est ça qui... Et pourquoi pas une certaine réaction affective, déjà. C'est peut-être un petit peu... un petit peu osé de dire ça, mais déjà, sait ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas.
Vous avez beaucoup travaillé aussi sur les sites et les réseaux de ce plaisir musical dans le cerveau.
Alors ça, c'est autre chose. Alors, il faut dire là que les émotions musicales, le mot émotion doit quand même être pris au sens large du terme, parce que l'émotion, ça, on a l'impression que c'est quelque chose de soudain, de passager. Mais le sentiment, ça fait partie aussi, en fait, tout ce qui est affectif dans la musique.
Donc la musique touche ça, touche ces réseaux-là, ces réseaux de l'affect, de la sensibilité.
Ça. Alors ça, c'est justement, nous on a fait des travaux là-dessus avec Hervé Platel, puisque maintenant à l'Université de Caen, il y a un axe de recherche sur la musique qui est très, très bien dirigé par Hervé Platel. Alors, Hervé Platel a montré que la musique, nous la percevons déjà, nous faisons une analyse. C'est compliqué parce que je vous explique ça en 5 minutes, ce sont des millisecondes. Et ça fonctionne en millisecondes.
C'est-à-dire qu'on a tous nos sens, il y a plusieurs sens en même temps.
Le danger quand on fait de la neuropsychologie, c'est de trancher comme ça, on tranche de saucisson. Mais ce n'est pas ça, tout fonctionne en même temps. C'est un petit peu un schéma que l'on donne. Alors, le premier schéma, c'est que nos oreilles transportent au lobe temporaux et qu'il y a une analyse déjà qui se fait. Une analyse qui se fait. Si bien qu'Hervé Platel, qui a fait une thèse magnifique, qui a été éditée en langue anglaise, bien entendu, et parue dans des grandes revues internationales, il a montré un travail avec des étudiants qui n'étaient pas musiciens. Alors, justement, le rythme est analysé par l'hémisphère cérébral gauche. Le rythme, par contre, la mélodie est plutôt analysée par l'hémisphère droit. L'identification par l'hémisphère gauche également. Et en somme, si vous voulez, le cerveau droit et le cerveau gauche se partagent incontestablement l'analyse de la musique. Et après, il y a le côté émotionnel. Alors, le côté émotionnel, on dit actuellement, on schématise peut-être un peu trop, mais il y a deux étages. Il y a l'étage du cortex cérébral, qui est le lobe frontal. Notre lobe frontal a tout ce qu'il faut pour le plaisir. Résonner. Et puis alimenté par une hormone, une neurohormone, qui est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, n'est-ce pas ? Et alors que l'adrénaline, c'est l'hormone de la terreur. Bon. Et deuxièmement, nous avons aussi, non seulement le lobe frontal, mais nous avons des ganglions de la base que j'ai analysés là-dedans, noyaux amygdaliens, qui sécrètent de la dopamine. Si bien qu'il y a, un, l'analyse structurale au niveau, comme l'a montré Hervé Platel, deux, l'analyse émotionnelle et peut-être même intellectuelle avec le rôle de cortex frontal.
Et Hervé Platel, on y reviendra, à montrer aussi que le cerveau justement des musiciens se modifie avec la pratique de la musique. On va y revenir,
voilà,
parce que
vous
en
l'ensemble, ça.
Voilà, vous en parlez dans votre livre Le plaisir de la musique, Bernard Le Chevalier, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question pourquoi et comment la musique enchante nos neurones et nous provoque tant d'émotions. Nouvelle question pour vous, soulevée par le célèbre paléontologue Yves Coppens.
La musique, je crois qu'elle est très ancienne. Enfin, je veux dire que je vois bien les préhumains avoir des modulations, des échanges d'ailleurs modulés, en fonction de ce qu'ils entendent dans la nature et en fonction du fait qu'ils entendent les oiseaux. Donc ceci a pu les influencer à chanter, à émettre en tout cas des sons agréables et un peu imités, un peu copiés. Mais que la musique ait pris ce développement est une merveille, ait pris ce développement à tous égards. Et je peux dire d'une certaine manière que pour moi qui suis, non pas froid, mais quand même assez résistant aux événements de l'existence, la musique est capable de me faire pleurer. Quoi. Je peux pleurer. L'émotion peut être si forte que ça m'arrache des larmes, ce qui m'étonne moi-même, ce qui me surprend moi-même, mais agréable en même temps. Donc, je pose en effet cette question. Comment se fait-il que la musique soit aussi puissante qu'elle puisse parvenir à ce degré d'émotion chez l'homme ?
Vous avez la réponse, Bernard Le Chevalier, à cette question soulevée par un de vos collègues de l'Académie de médecine, le professeur Yves Coppens.
Alors, je vais vous répondre en citant quelqu'un que je cite dans mon livre. Mmh. C'est un texte ancien, mais c'est un texte remarquable. C'est le livre d'Adolf Meyer, qui a bien montré comment on écoute de la musique. Et il a montré de façon très simple, avec des exemples. Il y avait, c'est ce qu'on disait en discutant avec mon collègue là, avant,
avec
il y a
Tom
deux plaisirs. Il y a le plaisir formel, le plaisir formel et le plaisir associatif. Alors, le plaisir formel, il faut bien comprendre qu'une forme, une belle forme peut susciter une émotion, même de faire pleurer. Si vous entendez un concerto de Mozart, il n'a pas voulu faire ça pour telle ou telle personne, ou pour penser à sa grand-mère, ou je ne sais quoi. Il a écrit une musique, un adagio de concerto de Mozart. Moi, si j'entends ça, j'ai la larme à l'œil. Parce qu'il y a une beauté formelle. Et je crois qu'actuellement, dans notre monde actuel, on ne pense pas assez à cela, à la beauté formelle de la musique. On pense pense tout. Alors, le second aspect, c'est l'aspect associatif. Qu'a montré Bayer, c'est-à-dire telle musique nous fait penser à une personne, à un amour, à une tristesse.
Il y a un côté Madeleine de Proust, ça nous renvoie mémoire, à notre passé, à nos expériences.
Alors, je suis ravi que vous disiez ça parce que mon épouse, Bianca Le Chevalier, a fait un travail sur justement la perception de la musique du côté de chez Swann, l'histoire d'Odette et de la sonate de Vinteuil. Quand Swann entend la sonate de Vinteuil, c'est d'abord un magma incompréhensible, il n'y comprend rien. Et puis il entend présence d'Odette, si bien que la sonate de Vinteuil devient liée à Odette. Alors là, il l'analyse, il trouve que c'est joli, c'est des choses. Et puis troisièmement, c'est devenu la sonate d'Odette, n'est-ce pas? Et puis Odette, il apprend qu'il n'y avait pas que lui. Soit parce qu'Odette, c'était un peu de professionnel, mais pas dans le domaine de la musique. Et alors, la sonate de Vinteuil lui devient odieuse. Alors, j'en parle là-dedans, mais ça se joue les trois niveaux de la perception, les trois niveaux du plaisir musical. Un, reconnaître que le son est de la musique. Deux, et connaître de l'analyser, même grossièrement. Et trois, la possibilité de l'identifier et de l'associer. Et je crois que ce que dit M. Coppens, c'est très juste. La belle musique, c'est une musique qui nous fait plaisir par sa forme, mais aussi qui nous fait plaisir par les associations elle suscite affectif. Et actuellement, il faut bien comprendre cela.
Tom Mébarki, pour vous, le plaisir de la musique, des musiques que vous écoutez, sur lesquelles vous travaillez, vous êtes un spécialiste de Rossini, et quand vous chantiez en tant que chanteur lyrique, le plaisir de la musique, vous le découperiez comme ça aussi? Enfin, il est à la fois intellectuel, extrêmement émotionnel, lié à la mémoire.
Alors, je ne sais pas trop si je le compartimenterais de cette manière-là. Alors, effectivement, beaucoup de musicologues ont compartimenté ça. Charles Rosen, qui est un musicologue, a dit effectivement que en fait, le plaisir de la musique est croissant au fur et à mesure qu'on s'approprie les codes donc formels d'une certaine musique.
Au fur et à mesure qu'on l'apprend, qu'on apprend à l'écouter.
Et alors, peut-être qu'il faudrait... Parce qu'en fait, ça pose la question du sens de la musique, c'est ce que vous disiez. On aurait d'un côté le côté formel et d'autre le côté le sens. Et peut-être que si on remplaçait l'idée que la musique a un sens... Et plutôt, on pourrait plutôt dire que la musique nous envoie des sensations. C'est-à-dire en fait des sensations qui seraient purement acoustiques, qui toucheraient notre corps de plein de différentes façons. Et ce seraient ces sensations-là que nous transformerions en sens ou en signification.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que vous dites, le sens physique, c'est le premier niveau. C'est de penser que c'est de la musique et que rien que la musique en elle-même, ça nous fait plaisir. Et puis deuxièmement, l'identification. Quand on parle d'identification, c'est-à-dire les associations d'idées, les images, les pensées, tout ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ce qui veut dire aussi que la musique, quelque part, nous fait humains et puis nous en faisons quelque chose. Enfin, c'est une sorte d'aller-retour, de va-et-vient.
Voilà, c'est un dialogue.
C'est tout à fait ça.
Eh bien, je vous propose un autre genre de dialogue avec, autour de la question pourquoi la musique nous met en jeu, en feu, en joie, en émotion. Il y a des millions de raisons. Million reasons. Et oui, c'est Lady Gaga qui va le chanter tout de suite sur RFI, spéciale dédicace pour vous, Tom Mébarki.
On écoute.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons.
Gaga sur RFI. Million Reasons. C'est parmi toutes les raisons d'écouter Lady Gaga autour de la question du plaisir que nous procure la musique. Pourquoi c'est un peu grâce ou à cause de vous, je ne sais pas, hein, Tom Mebarki. J'écorche pas votre nom.
Non, c'est bon, c'est ça.
C'est bon, excusez-moi, je crois que j'ai un peu écorché au début. Tom Mebarki, à cause de votre thèse, surtout de musicologie, qui vous a valu, elle n'est pas encore passée, vous la passerez en décembre, vous la présentez en décembre, mais elle vous a tout de même valu le premier prix de la finale nationale en France de ma thèse en 180 secondes et le troisième prix de la finale internationale qui s'est déroulée à Dakar en octobre dernier. Vous allez comprendre pourquoi, chers amis auditeurs, à l'écoute d'un extrait de votre performance, cher Tom.
Parce qu'en effet, je travaille sur l'histoire, et plus particulièrement sur l'histoire de la musique. Oui, moi à la base, vous savez, je voulais être rockstar, c'est quand même plus sexy que musicologue, mais bon. À la place, je travaille sur des compositeurs morts, c'est réconfortant, qui, en leur temps, eux, étaient de vrais rockstars. Et c'est notamment le cas d'un certain Gioachino Rossini, que j'aimerais un peu vous présenter aujourd'hui comme le Shakira de l'opéra. Vous avez l'image ? Quoi, vous avez vraiment l'image ? Bon, alors en effet, mon travail consiste à démontrer la proximité entre d'une part la musique de Rossini et d'autre part les musiques commerciales d'aujourd'hui. Parce que pour l'une comme pour l'autre, le rythme va être répétitif à l'excès. L'harmonie va être simple, voire minimaliste. Et la mélodie va souvent jouer sur une dimension enfantine. Ça, c'est pour le côté vocal. Et pour le côté instrumental, Rossini va utiliser la voix de deux manières. Alors soit en la faisant vocaliser d'une manière qui peut rappeler les vibes dans le R&B aujourd'hui, soit en la faisant parler chanter très vite, ce qui fait de Rossini l'un des premiers rappeurs de l'histoire de la musique. Bon, alors évidemment, c'est pas la même esthétique musicale, mais c'est les mêmes matériaux sonores qui sont utilisés. En gros, Rossini et Lady Gaga, ça sonne pas pareil, mais quand même, on peut trouver dans les partitions les mêmes techniques d'écriture, la même manière d'écrire.
Et voilà, vous n'avez pas honte, Tom Mebarki, de traiter Rossini de rappeur. Il a la vibes et vous le comparez même à Lady Gaga ou à Shakira.
Mais alors justement, je revendique cette honte puisque mon but, et je le dis à la fin de mon exposé, c'est de casser le fossé qui est imaginé et donc qui est imaginaire entre la musique classique d'hier et la musique populaire d'aujourd'hui. Parce qu'on a souvent tendance à penser que la musique classique est réservée à une élite parce que précisément, ce serait une musique qui serait trop savante, trop compliquée.
Il faudrait avoir les codes.
Voilà, c'est ça. Et alors que, enfin, c'est peut-être vrai pour une partie de la musique classique, enfin classique, un gros mot avec de gros guillemets, mais une grande partie de la musique classique et notamment l'opéra était vraiment conçue comme est conçue la musique populaire d'aujourd'hui. Alors notamment, puisqu'on est sur la question du plaisir, le but de ces compositeurs-là, c'était de rendre accessible cette musique à un plus grand nombre pour qu'en fait, justement, ils puissent trouver du plaisir dans cette musique-là. D'ailleurs, Stendhal, qui a écrit La vie de Rossini, analyse la musique de Rossini essentiellement sur ce principe, ce critère du plaisir. Et effectivement, voilà, c'est pour montrer que, d'une manière, enfin, il utilise vraiment la même manière d'écrire, il utilise les mêmes techniques sonores que les musiques commerciales d'aujourd'hui, donc que ce soit dans le rythme ou dans l'harmonie ou
et
dans
ça,
la mélodie.
Vous vous en rendez compte parce que vous pratiquez la musicologie ou l'histoire comme une sorte de transhistoire, vous remontez un peu le temps et vous voyez que finalement les schémas qui rendent cette musique si populaire, si audible, qui nous mettent à l'unisson finalement, qui nous tire les larmes ou qui nous mettent en joie, ce sont les mêmes ressorts finalement.
C'est ça. Et la transhistoire n'est possible que si on accepte d'abandonner momentanément l'idée de musique, c'est-à-dire l'idée de quelque chose qui serait fixé dans un temps ou dans une époque ou dans une esthétique précise. Si on abandonne l'idée d'une musique et qu'on pense juste au son, à la manière dont les compositeurs ont fabriqué leur son, on peut se rendre compte qu'il y a des associations beaucoup plus fluides que des musiques qui sont enfermées dans leur contexte sociaux, politiques.
Mais alors ça serait quoi la recette d'hier comme aujourd'hui ? Quel son il faudrait mettre pour faire un tube, le tube ? Enfin, il y en a qui savent. Il y en a qui nous font bouger et danser, parce qu'on y viendra. Il y a aussi la danse, évidemment, dans cette question de
alors, il y a des gens qui se sont effectivement intéressés à la manière de fabriquer des tubes. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que ça tourne beaucoup autour d'une mélodie qui serait, c'est ce que je dis dans le texte, une mélodie qui serait répétitive, qui serait facilement reconnaissable, ce qu'on appelle un verre d'oreille, quelque chose qui rentre dans la tête.
Et qui n'en sort pas, oui.
Voilà, c'est ça. Un rythme qui serait répétitif, qui nous mettrait dans une sorte de transe, de rituel, et une harmonie simple pour pas justement, une harmonie facile à écouter finalement.
Bernard Le Chevalier.
Moi, je suis très intéressé par ce que vous dites, mais ça me vient une idée tout à l'heure. Chez Jean-Sébastien Bach, vous trouvez tout ça. Jean-Sébastien Bach utilise des répétitions, l'ostinato, la représentation, et du temps de Bach, il n'y avait pas deux musiques, il y avait une seule musique. C'était aussi bien, quand il devait faire sa cantate le dimanche, il prenait aussi bien un air populaire qui avait trait au bon vin ou à la bonne bière, qu'il transformait ou au café pour chanter. Mais dans la musique de Jean-Sébastien Bach, il y a justement ces répétitions et ces mélodies qui se répètent et qu'on retient très facilement, et c'est que Bach utilisait aussi bien pour la musique populaire que pour l'éducation de ses gamins quand il était cantor de Leipzig, que pour jouer quand il était organiste le dimanche à l'office.
Oui, ce sont vraiment des musiques qui restent dans la tête.
Ben oui.
Et les musiques qui font du bien, qui apaisent, ça ne date pas d'hier, Bernard Le Chevalier. Dans un chapitre, je crois, de votre ouvrage, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner, Le plaisir de la musique, paru chez Edil Jacob. Un des chapitres s'intitule « Du roi David à la musicothérapie
». Ah oui, ça, là, « Du roi David à la musicothérapie ».
Parce que le roi David, déjà,
oui,
savait qu'on pouvait soigner avec la musique.
On m'a demandé de faire, parce que j'ai... Bon, c'est une autre chose, c'est presque... un prix qu'il fallait que je fasse un exposé écrit et que je donne pour la pathologie vasculaire. Ben oui, le roi David, il avait je ne sais pas quoi, des migraines, des maux de tête épouvantables, et alors personne ne pouvait le libérer de ses migraines. Et alors quelqu'un lui a dit, mais vous devriez appeler, c'est Saül, c'est pas le roi David qui avait les migraines, c'est le roi Saül. Et donc on lui a dit, il y a un berger là qui s'appelle David, qui joue de la lyre, et essayez cela, ça va peut-être vous calmer les migraines. Alors quand David jouait sur sa lyre des airs, le roi Saül n'avait plus mal à la tête. C'était le premier exemple de musicothérapie. C'est pour ça que j'ai mis ça dans ma conférence, en commençant par le roi David.
Et parce que ça joue au fond sur les mêmes registres, cette musicothérapie. Il y a quelque chose quoi qui calme, qui apaise, qui rejoint nos rythmes profonds,
oui,
qui nous met dans un autre
Mais
temps.
Il n'y a pas que cela. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la musicothérapie qui, par son rythme, peut aider l'organisme. Et je pense à la maladie de Parkinson. Les Parkinsoniens sont bloqués, ne peuvent plus bouger, et quelquefois, la musique peut les aider à marcher.
Parce que... C'est-à-dire quelqu'un qui est atteint de Parkinson, qui peut marcher, si on lui met un peu de musique...
Pas à tous les coups, bien sûr, mais il peut reprendre le rythme. Voilà. C'est cela, c'est exactement cela. La musique peut stimuler ces dispositifs qui ne fonctionnaient pas d'eux-mêmes. Si vous voulez, c'est un stimulant. Alors, c'est très utile pour certaines thérapeutiques.
Est-ce que c'est lié, parce que vous avez aussi un chapitre sur la danse, de la danse, est-ce que c'est lié justement à ça, au fait que ce que vous disiez aussi, Tom, c'est-à-dire que finalement, dans notre corps, il y a aussi des rythmes, il y a aussi des horloges.
C'est donc une chose très terre-à-terre, ce que je vous dis là, l'histoire du parkinsonien, c'est parce que les centres auditifs sont intacts, chez le parkinsonien, ces centres auditifs qui reçoivent des rythmes, etc., les transmettent au centre moteur.
Et ça va faire bouger les centres moteurs.
Ça existe chez le danseur, mais chez le parkinsonien, il n'y a plus de centres moteurs, ils ne font plus leur travail, ça stimule, et c'est utile. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il y a l'action psychologique de la musique. Alors, l'action psychologique de la musique, on a eu un congrès il y a 3-4 ans à Montpellier, où il y avait d'ailleurs quelqu'un de chez vous, Michel Habib, qui a fait quelque chose de très bien sur la musicothérapie, et les gens déprimés peuvent bénéficier beaucoup, et les gens qui souffrent de douleurs chroniques peuvent être beaucoup aidés. Et il y a eu des travaux faits très très bien par Mme Sanson de Lille là-dessus, que la musique peut atténuer la perception de la douleur.
Atténuer la perception de la douleur.
Parce qu'il faut bien comprendre que le cerveau, c'est tout ce qu'on apprenait quand j'étais en première année de médecine, c'est tout faux. On disait que le cerveau, c'était immuable. C'est pas du tout comme ça. Le cerveau, ça n'arrête pas de bouger. Nous, chacun le cerveau individuel. Nous avons tous un cerveau à nous, et ce cerveau à nous, il se modifie tous les jours. Et il y a quand nous mourrons, qu'il ne bouge plus, bien sûr. Mais le cerveau se modifie tous les jours, et il y a une plasticité cérébrale. Ça se voit très bien chez les enfants. Si on met deux populations d'enfants, un à qui on enseigne la musique, l'autre à qui on n'enseigne rien du tout, ceux à qui on enseigne la musique, au bout d'un certain temps, ils ont des structures développées que n'ont pas les autres.
Alors c'est précisément...
La plasticité cérébrale.
Plasticité cérébrale en lien avec la musique. Oui. Vous l'avez dit dans cette émission, c'est aussi ce sur quoi travaille Hervé Platel, vous avez travaillé, mais qui lui a aussi travaillé sur les questions de la mémoire, et en tout cas est parvenu à adoucir le quotidien de patients qui souffrent de troubles de la mémoire, de maladies neurodégénératives de type Alzheimer. Ouais. Je propose d'écouter justement Hervé Platel. Vous avez travaillé avec lui là-dessus, sur les allégros d'Alzheimer. Extrait.
On était resté sur l'idée que les patients, à un stade modéré à sévère de la pathologie, n'étaient plus capables d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Et puis là, d'un seul coup, il y a ces ateliers d'apprentissage de chants nouveaux et ça marche. On voit que les patients mémorisent les mélodies des chansons et sont capables même de les restituer spontanément. Alors ça, c'est un choc. On se dit, comment on peut expliquer ce qui se passe là?
Derrière le mur de mon jardin, la rivière trace son chemin.
Là, il y a un espèce d'apprentissage inconscient qui se produit. Et on a vraiment une claire dissociation chez ces patients entre une capacité qui demeure intacte à mémoriser des mélodies, alors que la capacité de mémoriser un texte, des phrases, ben, est complètement effondrée. Alors comment on peut expliquer cet effet-là dissociatif? On a réalisé des études de neuroimagerie. Donc on s'est aperçu que la mémoire de la musique engageait beaucoup plus largement le cerveau, tant dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Et est-ce que quand on est musicien âgé et qu'on a continué une pratique musicale, on a préservé son hippocampe, éventuellement des effets négatifs du vieillissement cérébral? Est-ce que cet effet sur l'hippocampe, ça peut aussi être intéressant à considérer comme un facteur de préservation du démarrage d'une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer? La pratique de la musique modifie le cerveau. S'il n'y a rien d'autre que la musique qui peut produire ce type d'effet, alors là, on pourra conclure, oui, bah, la musique est spéciale pour le cerveau.
Alors, Bernard Le Chevalier, vous voulez commenter? La musique est spéciale pour le cerveau.
C'est un grand plaisir pour moi d'écouter Hervé Platel dire des choses comme ça, parce que c'est lui qui a découvert et qui a insisté sur ce fait que dans la maladie d'Alzheimer, la perception de la musique et la mémoire de la musique est relativement bien conservée.
En fait, c'est ça, elle est conservée. C'est-à-dire que l'autre mémoire, enfin, parmi toutes les mémoires que nous avons, la mémoire musicale reste.
Ben oui. Elle est plus conservée que les autres mémoires. Voilà.
On ne s'en doutait pas du tout avant.
Un petit peu quand même. Mm-hmm. Quand on faisait, mais ça ne retire rien, mais moi je me rappelle, on faisait des essais thérapeutiques pour l'Alzheimer. Et j'avais vu une femme, une personne, son mari me disait, c'est tout à fait extraordinaire, et elle ne me reconnaît pas comme son mari. Elle ne sait pas où elle est, elle ne reconnaît rien. Et je l'emmène à la chorale paroissiale. Et le dimanche, elle se met à chanter les chants qu'elle a connus toujours. Elle participe même à la chorale de Saint-Père-sur-Mer. Je peux même vous donner l'endroit.
C'est extraordinaire.
Ça m'avait semblé extraordinaire.
Est-ce que ça ouvre justement peut-être des pistes? Alors, je ne sais pas si c'est véritablement thérapeutique, mais au moins de cultiver ce qui reste.
Il faut être très prudent quand on parle de la maladie d'Alzheimer. Il faut être très prudent. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a trop tendance peut-être dans le public à considérer ce qui est détruit dans la maladie d'Alzheimer, plutôt qu'à considérer que ce qui reste est très important et faire fructifier ce qui reste. Et peut-être qu'en fond, la musicothérapie, il y a peut-être une musicothérapie, peut-être y a-t-il une musicothérapie qui peut aider relativement, pas guérir, mais aider relativement ces patients-là. Mais c'est pour ça que c'est très important.
À ce propos, j'ai peut-être une anecdote à vous raconter. Alors, j'ai organisé plusieurs ateliers de musicothérapie dans un EHPAD dans le sud de la France.
Dans un centre pour personnes âgées.
Exactement, oui. Et en fait, au fur et à mesure des séances, donc effectivement, je leur faisais écouter de la musique et je les faisais chanter. Et dans les dernières séances, non seulement ils chantaient avec moi, ils reconnaissaient la musique, mais en plus, dès que j'arrivais, ils me reconnaissaient comme étant celui qui amener la musique et qui les faisait chanter. Donc c'est encore quelque chose de supplémentaire à ce niveau-là.
C'est très important.
Pouvoir de la musique, c'est fascinant. Vous avez choisi, Bernard Le Chevalier, autour de cette question du plaisir de la musique. Je rappelle que nous avons un exemplaire de votre ouvrage qui vient de paraître chez Odile Jacob à vous offrir, chers amis auditeurs. Vous avez choisi, Bernard Le Chevalier, d'écouter Maurice Ravel, mais pas n'importe quel concerto. On écoute le concerto pour piano, pour la main gauche de Ravel, composé pour le pianiste Paul Wittgenstein, qui avait perdu un bras dans la Première Guerre mondiale. Vous nous direz pourquoi et vous en direz plus après, Bernard Le Chevalier.
Thank you.
Extrait du concerto pour piano pour la main gauche de Maurice Ravel. Pourquoi ce choix musical, Bernard Le Chevalier ?
Pour des tas de raisons. Premièrement, il fallait que je mette dans ce livre des exemples pour montrer la beauté de la forme.
Dans ce livre, le plaisir de la musique.
Le plaisir de la forme. Et ce concerto de la main gauche, je trouve que c'est une œuvre qui est aussi belle qu'une symphonie de Beethoven. Vraiment. Et pourquoi je trouve ça ? C'est qu'elle est tragique. Comme les symphonies, comme beaucoup de symphonies de Beethoven. Et pourquoi est-ce qu'elle a été composée ? Elle a été composée à la demande de Wittgenstein, qui avait perdu son bras droit à la guerre de 1914. Alors, il a demandé, ce pauvre pianiste autrichien, a demandé aux compositeurs, à des grands compositeurs d'écrire une œuvre pour lui. Et Ravel a lui-même beaucoup souffert dans sa vie, et il est devenu très malade. Il a eu une atrophie cérébrale, comme vous le savez. Il
est une maladie dégénérative.
Dégénérative. Et qui laissait intactes ses facultés intellectuelles, et qui laissait intacte la musique. Il n'a été ni dément, ni musicien, ni dément, ni amusique. Ravel n'a pas été dément et n'a pas été amusique.
Mais il est quand même mort de cette maladie
dégénérative. Il est mort de cette maladie auquel l'Académie de médecine a consacré toute une après-midi sur la maladie singulière de Maurice Ravel.
Et alors, sur laquelle vous travaillez vous aussi, parce qu'aujourd'hui vous travaillez sur la vie de ce formidable compositeur atteint d'une très singulière maladie dégénérative qui vous permet de comprendre quoi ou de toucher quoi.
Je vais vous dire autre chose qui nous permet de l'aimer d'abord, parce que ça finit que j'ai l'impression qu'il est là, Maurice Ravel. Et alors, on ne peut pas ne pas être touché. Monsieur Coppens disait qu'on peut avoir la larme à l'œil en entendant de la musique, mais quand on lit la vie de Ravel et quand on lit tout ce qu'il a vécu, c'est un côté sentimental, mais enfin, nous ne sommes pas que des machines, nous sommes quand même des affects, et nous pensons et nous ressentons. Bon, deuxièmement, au point de vue de la forme de la musique, ce concerto est extraordinaire, parce qu'il est à la fois formel, mais il est aussi évocateur. Mais il est évocateur parce qu'on part d'un magma sonore, informe au début, où ce sont des accords qui ne sont ni majeurs ni mineurs, parce qu'ils n'ont pas de tierces. C'est des cartes.
Oui, c'est très modal, Ravel.
C'est ça.
Là, on reconnaît les musiciens.
Progressivement, ça se met en route. Et puis, ça y a un grand crescendo, ça s'arrête. Il y a un silence. Et alors, j'ai écrit « Monseigneur, le piano entre en scène ». C'est tout à fait ça. Le pianiste entre en scène avec sa seule main gauche, fait un arpège formidable qui vont depuis le grave jusqu'à l'aigu. Et alors, à partir de là, c'est un vrai feu d'artifice. Vous avez des sonorités extraordinaires et vous avez du jazz. Des morceaux de jazz qui ressemblent presque à des choses sinistres. Et puis, ça se termine par un contrepoint phénoménal où tout s'additionne dans une sorte de jubilation extraordinaire.
Je ne sais pas si vous êtes neurologue ou si vous êtes...
Je suis neurologue.
Oui, mais vous êtes aussi musicien et vous êtes aussi organiste. En tout cas, merci pour nous faire rentrer comme ça dans ce concerto pour piano pour la main gauche de Ravel autour de la question pourquoi et comment se passionne-t-on pour la musique ? Je propose un nouvel éclairage, un dernier éclairage. C'est celui de l'astrophysicien, poète et musicien Jean-Pierre Luminet, qui était récemment notre invité et qui a une question pour vous. On l'écoute.
Mais quand on pense à la musique... Je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est probablement ma plus grande passion. Je pratique la musique depuis mon enfance. C'est un univers au moins aussi fascinant et aussi riche que les autres univers dans lesquels j'ai pu travailler. Je pense que c'est celui également qui engendre sans doute le plus d'émotions. J'ai une question que je vous pose, parce que j'aurais des milliers de questions à vous poser sur la musique. On dit parfois que c'est chez des esprits abstraits, comme les mathématiciens, les physiciens, théoriciens, que l'on trouve souvent une appétence particulière pour la musique, qui est à la fois effectivement l'une des formes d'art qui engendre le plus d'émotions à l'état brut, mais qui peut prendre une forme très abstraite, ne serait-ce que dans son écriture. Si vous ne savez pas lire une partition, vous êtes aussi démuni que si vous regardez les équations d'Ensemble, si vous ne comprenez pas les mathématiques. Et pourtant, derrière, il y a un univers absolument insondable, d'une richesse profonde, et j'aimerais que vous donniez votre opinion là-dessus.
Bernard Le Chevalier, votre opinion entre la musique, à la fois parfois si abstraite, qui fait appel à notre cerveau abstrait et qui touche aussi vite que nos émotions.
Je vais être très sincère. J'ai jamais été bon en mathématiques. J'ai un petit-fils qui est très bon en mathématiques.
Donc vous êtes musicien mais pas très bon en mathématiques.
Je n'ai jamais eu, et je trouve admirable, j'ai une grande admiration, quand je connais, j'ai beaucoup donné de concerts avec un violoncelliste qui s'appelle Monsieur Elgouache, qui était premier prix du Conservatoire de Paris en violoncelle, sorti de l'école normale supérieure, professeur de mathématiques à l'université de Caen, et on faisait des concerts, lui jouait des suites de Bach, que je trouvais admirable. Et moi, je jouais des chorales de Bach dans nos concerts. Et malheureusement, je n'ai jamais pu faire le rapport entre... C'est mon impuissance d'avoir fait un rapport entre les mathématiques et la musique.
Vous pouvez l'avouer, un musicien et neurologue. Complexité tout de même aussi du cerveau humain, parce que moi, j'ai l'impression qu'on est avec ça dans la musique, dans à la fois une simplicité absolue, et puis un gouffre extraordinaire, mais un gouffre magnifique derrière Tom Mébarki.
Oui, en fait, la musicologie souffre d'un dualisme, mais c'est pas souffre, au contraire, elle s'enrichit de ça. C'est qu'il y a à la fois, il y a le côté esthétique, donc vraiment, c'est la surface, la superficialité, si j'ose dire, de la musique, ce que vraiment on ressent, et puis le côté acoustique, donc là, effectivement, la musique est faite de proportions mathématiques, de relations naturelles ou non entre les intervalles et les gammes et tout ça, et donc c'est ce dualisme-là qui permet qu'elle soit à la fois très accessible et à la fois pas du tout accessible, suivant qui la comprend et de quelle manière surtout on l'attaque.
Le plaisir de la musique. Merci infiniment, Bernard Le Chevalier, d'être venu en direct partager le plaisir de la musique, une approche neuropsychologique, ouvrage que vous venez de publier aux éditions Odile Jacob et dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Merci, Tom Mébarki. Vous revenez quand vous voulez. Vous allez ce soir assister à la médaille d'or du CNRS. Avec plaisir, absolument. Et vous présentez quand votre thèse sur Rossini ?
Eh bien, si tout va bien, c'est-à-dire si je ne change pas de thèse d'ici là, et si voilà, décembre 2020. Ce qui me laisse à peu près jusqu'à l'été pour finir de l'écrire.
Eh bien, bonne thèse, alors bonne fin de thèse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI, sur l'appli RFI Plus Radio et sur Spotify. À votre disposition, chers amis auditeurs, merci de votre écoute bienveillante, merci de votre curiosité. Rendez-vous demain, même heure, même onde, pour nous interroger sur les cratères d'impact, ce qu'ils nous révèlent sur la Terre, les origines, nos origines, celles de la vie extraterrestre ou pas. À suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Caroline Achowski au micro pour vous servir. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ce sera l'heure des infos sur RFI. Radio Foot International.